Voilà, bonjour tout le monde. Avant de commencer le message, on va remettre eh bien, ce qui sera dit au Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier. Effectivement, nous savons, nous croyons que tout concourt à notre bien, car nous connaissons ta bonté, mon Dieu. Nous savons que tu n'as pas fait des projets de malheur pour nous, mais projets de paix. Parce que nous te connaissons. Et Seigneur, nous voulons que le monde te connaisse tel que tu es. Non pas avec des images qu'ils ont dans leur tête, ou non pas avec une pensée qu'ils ont de toi, mais selon la vérité, selon ta parole. Seigneur, que cette parole, tu puisses la diriger aujourd'hui. Qu'elle puisse être efficace, car ta parole est puissante. Ta parole est celle qui contient la vie, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie eh bien, d'animer notre foi, d'animer peut-être ceux aussi qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre ta bonté, comprendre ton amour en Jésus-Christ. Car oui, Jésus-Christ, nous savons, c'est cet amour que tu nous as donné, qui est manifeste. Et Seigneur, nous voulons vraiment vivre cet amour pleinement, connaître ton Fils. Aujourd'hui encore, remplis nos cœurs de la connaissance de ton Fils. Et que cette Église encore puisse grandir, Seigneur, car je sais que tu aimes cette Église et que tu nous aimes, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, pourvois à tous les besoins, et que toute la gloire te soit toujours rendue, Seigneur. C'est en Christ cette prière. Amen. Amen. Alors nous continuons notre série dans 1 Corinthiens. Donc on est dans 1 Corinthiens 15. La question que l'on pourrait sortir de ce chapitre 15, de la première lettre aux Corinthiens, est: quelle est donc votre espérance? Quelle est notre espérance? Et cette question pourrait même se décliner en plusieurs sous-questions. Qu'espérons-nous trouver en Jésus-Christ? Qu'espérons-nous de cette vie chrétienne? Qu'espérons-nous de la vie avec Dieu? Qu'espérons-nous trouver dans l'avenir auprès de Dieu? Et il faut que ça soit clair. Si vous ne savez pas ce que vous espérez en Jésus-Christ, votre foi, elle est basée sur quoi? Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que cette vie chrétienne, cette foi, elle est aussi dans l'inconnu. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la vie avec Dieu, c'est compliqué de vivre une vie agréable à Dieu. Et en effet, si nous nous trompons d'espérance, déjà notre vie présente sera totalement affectée. Et au vu de la vie des Corinthiens, il était évident qu'ils avaient un problème sur cette espérance. Et il continue à préférer la vie à la corinthienne, la vie locale, la sagesse humaine, à la vie avec, ou selon, ou pour Dieu. Il ramenait même cette vie dans l'Église. Il ne souciait pas trop de ce qui attendait dans le royaume de Dieu. Il était obligé de le rappeler, Paul, que les voleurs, quoi encore, les débauchés, les idolâtres, tout ça, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu, comme si ce n'était pas une évidence depuis le temps qu'ils ont été enseignés. Mais ils ont ramené ça dans l'Église. Qu'est-ce qu'il y avait au milieu d'eux? La débauche. Comme si c'était quelque chose de normal. Mais c'est parce qu'il y a un souci dans leur espérance. Dans leur espérance dans le royaume de Dieu. Au lieu de se soucier de la gloire de Dieu, ils se sont plutôt souciés de la gloire de l'homme. Mon parti. Je suis le meilleur. Ma connaissance est au-dessus. Je préfère Paul, je préfère Apollos, Céphas. Au lieu de chercher l'édification du corps, chacun voulait faire l'étalage de son don. Une démonstration de ce qu'il est capable de faire. Plutôt qu'une démonstration de ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Au lieu de l'amour de Dieu, il privilégiait l'amour de soi. Dispute et rivalité. Chacun cherche son bien-être. Je veux la part qui me plaît sur cette terre. Et n'acceptant pas la vie que Dieu parfois donne. Chacun veut une place. Je veux être prophète, apôtre, enseignant, parler les langues, faire des miracles. Comme si toutes ces choses étaient l'espérance tant attendue. Vous savez, tous les ministères au ciel, ils disparaîtront. Ils disparaîtront, c'est pas ça qui va rester là-haut. Et pourtant, nous cherchons toujours à nous attacher à des choses qui vont disparaître comme si c'était l'essentiel. L'essentiel, il va le rappeler, c'est l'amour. Mais si on ne comprend pas ce que c'est que l'amour, on ne va jamais le vivre. Ils se sont trompés d'espérance. Leur espérance était seulement dans cette vie terrestre. Profiter de la vie terrestre. La meilleure place dans cette vie terrestre. Ma vie ici-bas est plus importante que tout. Ma vie ici-bas est plus importante que tous. C'était leur philosophie. Mais nous, notre espérance, depuis le début, elle est la même. L'espérance tant attendue, il le dit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Une espérance qui date de quand ? De la croix ? Je crois qu'ils attendaient ce Messie depuis longtemps. Et ils l'attendaient pourquoi ? Pourquoi ils attendaient un Messie pour les délivrer de leur péché ? Et l'espérance, ça a toujours été ça, que nous soyons délivrés du péché. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus-Christ meure, que l'on soit pardonné, que l'on soit purifié, que l'on soit lavé. Et c'est ça le Messie qui était tant attendu. Et nous qui avons été justifiés, purifiés, lavés, qu'attendons-nous donc de notre vie chrétienne, si ce n'est pas une vie où nous nous éloignons de quoi ? Du péché, et dans l'espérance d'être un jour dans une vie avec totalement zéro péché. Et c'est ça la vie de résurrection, c'est notre espérance. C'est notre bonne nouvelle. Voilà pourquoi Paul, dans ce chapitre 15, rappelle quelle est notre bonne nouvelle. Depuis le début, c'est ce qu'il annonce. On peut relire le début du passage. Chapitre 15, verset 1er. Du premier verset jusqu'au verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et revenons juste au verset 2, qui nous dit, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Personne ne peut être sauvé si ce n'est pas dans les termes qui est annoncé là. Et quels sont ces termes ? Christ est mort pour nos péchés. Et ça se trouve où ? Dans les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Et ça se trouve où ? Dans les Écritures. Voilà pourquoi nous prêchons l'Évangile, et quand nous prêchons l'Évangile, nous n'oublions rien de ces détails. Si on dit juste « Christ est mort », il manque quelque chose. Si on dit juste « Christ a été enseveli », il manque quelque chose. Mais Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité. Il faut que tous les termes soient bien là. De faire comprendre qu'il n'y a aucun autre moyen. D'abord, il faut Christ. S'il n'y a pas Christ, on ne peut pas parler de salut. On ne prêche pas de salut sans Christ. On ne peut pas dire, ah, vous pouvez entrer au ciel sans Christ. Et même auparavant, même si le nom de Christ n'était pas là, l'espérance était déjà là. Ils espéraient en qui ? En Christ qui les délivre de leurs péchés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque nous prêchons l'Évangile, nous gardons les termes qui sont comment ? Annoncés. Autrement, la foi sera comment ? Vaine. On croit, croirions-nous. Et Paul, il dit même que cet enseignement, si on va au verset 3, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais, moi aussi, reçu. Et il n'est pas en train d'annoncer quelque chose qu'il sort de sa tête et il ne sait pas d'où ça sort. Il dit non, moi aussi, je l'ai quoi ? Reçu. Et nous, nous l'avons aussi quoi ? Reçu, donc nous allons transmettre quel message ? Juste celui-là, pas d'autre message. Et la croix de Christ est notre salut. Il est mort et ressuscité. Mais les Corinthiens, à force de discuter sur l'Évangile, au lieu de simplement la croire et de la vivre telle qu'elle est, à force de chercher une sagesse humaine dans les Écritures, au lieu de s'humilier devant la croix de Christ, qui est la sagesse de Dieu, À force de vouloir avoir raison, au lieu de vouloir être agréable à Dieu, ils ont fini par se détourner de l'espérance attendue et annoncer une idée nouvelle. Il n'y a pas de résurrection des morts. Pourtant, dans l'Évangile, c'est annoncé. Il faut que Christ soit ressuscité pour que nos péchés soient vaincus. Voilà pourquoi nous prêchons Christ crucifié. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Au lieu d'avoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifiés dans leurs pensées, ils discutaient beaucoup trop. Moi, je suis d'eux. Moi, je pense que... Mais ils n'en sont pas arrivés là du jour au lendemain. Ce sont ces discussions. Ils ne se sont pas écartés du jour au lendemain. Parce qu'ils ont été enseignés par Paul pendant longtemps. Et le témoignage de Christ avait été solidement posé. Ce n'était pas ça le problème. Ils étaient comblés de la parole. Ce n'était pas ça le problème. Mais au lieu de se baser selon les Écritures, conformément aux Écritures, ils sont commencés à user de philosophie. Oui, mais je pense quand même que... Ouais, juste ces petites phrases. Christ est mort pour mon péché, pour mes péchés, et j'ai juste qu'à croire et je suis sauvé. Je pense quand même que c'est trop facile. Je pense quand même qu'il faut que je fasse quelque chose. Je pense quand même que... Et c'est ça notre philosophie. Où est ma place là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rajouter un petit peu à ce salut? Je pense que... Et non plus selon les Écritures. C'est trop restrictif quand même. Christ... Attends, il y a ceux qui n'ont pas Christ alors. Oui, mais c'est ce qui est écrit. Christ. Et si on ne passe pas par le chemin, si on ne croit pas en cette vérité, on ne trouvera pas non plus la vie. Parce que Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que... La Bible le dit. Donc si vous cherchez un autre moyen, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà pourquoi c'est restrictif. Mais c'est restrictif, non. La porte est étroite, certes, mais tout le monde y a accès. Et il suffit juste de rentrer par Christ. Mais au lieu de recevoir cette parole, ils ne peuvent pas croire. Un peu comme quand on dit « Je ne peux pas croire en un Dieu qui est capable de créer la terre en 7 jours. 6 jours, pardon. Et un jour de repos. » Non, je ne peux pas. Mais c'est selon les Écritures. Oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas croire en un Dieu qui ressuscite les morts. Et c'était le problème des Corinthiens. Je ne peux pas croire. C'est philosophiquement, scientifiquement absurde. C'est une folie. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Paul? La prédication de la croix est une folie. Mais pour qui? Pour ceux qui périssent. Vous voyez? C'est une folie, hein? On va pas essayer de convaincre les gens que c'est une sagesse. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais on va la prêcher. Mais pour quelle raison? Parce que c'est cette folie-là qui est plus sage que la sagesse des hommes. C'est ce que nous dit le Seigneur. On ne sait pas comment doctrinalement ils ont fini par dévier de cette manière, parce qu'ils étaient comblés de la parole, on l'a dit. Mais on sait qu'ils ne sont pas restés dans l'Évangile, pour certains. Parmi eux, on préférait croire qu'il n'y a pas de certains ont préféré croire qu'il n'y a pas de résurrection. Ils ont choisi leurs idées, leurs philosophies. Ils ont choisi de fixer les limites de l'Évangile de Dieu selon la limite de leur compréhension. Et parfois, nous devons faire attention. Si quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'atteindre que ce n'est pas possible. Mais on devrait plutôt se dire, si je n'arrive pas à l'atteindre, c'est doit être divin. Parce que si on est capable de comprendre tout ce que comprend Dieu, c'est qu'on est au même niveau que Dieu. Mais Dieu, il a fait de nous ses créatures. Et même Paul, il a dit, mais que tes pensées sont insondables. C'est le terme qu'il a utilisé. Et pourtant, il a été élevé jusqu'au troisième ciel. Il a vu des choses incroyables, mais il a dit que les pensées de Dieu sont insondables. Si ce n'est pas Dieu qui nous révèle les choses, on ne peut pas le comprendre. Et la résurrection, si vous voulez que je vous donne des détails scientifiques de comment ça se passe, j'en sais rien du tout. Mais je sais une chose, c'est qu'il le fait. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Et ça, je le crois. Et il y a eu des témoins. Et je l'ai vu dans ma vie... L'effet d'avoir cru en cette résurrection. Alors je ne peux vous juste enseigner que ce que on m'a transmis. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ça, annoncer l'Évangile. Et c'est ce que Paul fait dans, tout au long eh bien, de ce chapitre. Il annonce les merveilles de cette résurrection corporelle qu'il a reçue et que nous tâchons de transmettre encore aujourd'hui. Une vie espérée dans ce corps de gloire que nous partagerons dans l'éternité. Vous avez vu les dernières fois, nous partagerons la victoire de Jésus-Christ. Nous partagerons une vie où Dieu sera tout en tous. C'est l'espérance de ceux qui ont reçu l'Évangile selon les Écritures, une espérance qui change notre manière dès aujourd'hui. Et nous allons prendre ce texte qui est la suite des précédents, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34, qui nous parle justement de l'impact de cette espérance sur notre vie. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent en aucun cas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi affrontons-nous toujours, à toute heure, le danger? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Alors mangeons et buvons, puisque demain, nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. On revient au verset 29. Au premier regard, ce verset 29, il peut sembler assez compliqué. Il dit une chose quand même, c'est que il y a des personnes qui se font baptiser pour les morts. Il dit « ceux qui se font baptiser pour les morts ». Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des, on va dire, des personnes qui le font. Très connues, hein, bon, je vous donne, parce que c'est eux principalement, ce sont les Mormons. Et les Mormons sont un spécialiste sur le sujet. Ils en ont tellement fait de ce verset-là une grande philosophie qu'ils sont même les champions de la généalogie dans le monde entier. Ils ont les plus grands centres des généalogies. Ils ont même fait cette norme-là qui permet de transférer les données de généalogie en informatique d'un endroit à un autre, parce que c'est très important pour eux, ce verset. Et ils se sont arrêtés dessus. Et ils ont oublié les termes qui étaient auparavant. Mais ils se sont arrêtés sur celui-là. Et ils se font baptiser pour leur mort passée. Je préfère vous lire exactement ce qu'ils disent, eux. Comme ça, vous savez quelle est leur foi. Hein, c'est dans la presse mormone. Hein. Donc ça se trouve facilement. Et ils disent, donc c'est les mormons, ils s'appellent les saints des derniers jours, hein, c'est leur nom. Les saints des derniers jours croient que la famille peut être unie pour l'éternité. C'est pour cette raison qu'un membre de l'Église peut se faire baptiser par procuration en faveur d'une personne décédée, laquelle est souvent un de ses ancêtres. Selon la croyance des saints des derniers jours, une personne décédée conserve le droit de faire des choix dans l'au-delà, et l'acceptation du baptême ouvre la voie à une progression continue. C'est ce qu'ils croient. Mais quand vous relisez ce qu'on a lu auparavant, il y a un problème. Ce n'est pas les termes qui ont été dits. Et à un moment donné, il faut croire dans les Écritures. Et comment un mort peut croire dans les Écritures? Et comment une autre personne peut... Tu peux transmettre à un mort... Annoncer l'évangile à mort, on ne peut pas lui transmettre, c'est fini. Et comment une personne qui est morte peut se faire baptiser par procuration en prenant une autre personne? C'est devenu une espèce de philosophie, micmac. Pourquoi? Ben, ça partait peut-être d'un bon sentiment. Le sentiment au départ, c'est qu'il le dit, hein, les saints et derniers jours croient que la famille peut être unie pour l'éternité. Ils n'arrivaient pas quand même à concevoir une chose, c'est que leur famille ne soit pas quoi? Sauvé. Ça partait de ça. Ça partait d'un bon sentiment. Ça partait d'une raison qui était une raison. Je ne peux pas croire en un Dieu qui laisse ma famille sans être sauvé. Et au lieu d'accepter l'Écriture, ils ont préféré quoi? Tordre ce qui est écrit. Et ils pensent donc qu'on peut faire baptiser les morts et quand on lit ce verset, on pourrait le croire. Mais moi, je vous dis une chose. On ne peut pas inverser ce qui est écrit avant. Donc ça veut forcément dire autre chose. Déjà, c'est la première pensée, et c'est toujours le conseil que je donne. Si quelque chose s'oppose à l'annonce de l'Évangile, c'est que c'est pas possible. Il y a quelque chose qui fait qu'on interprète mal le passage. Et la première chose à faire lorsque nous lisons un passage, c'est de retenir dans les termes où on a annoncé les choses, pour que quand on lise, on ne change pas les termes de l'évangile. Ne commençons pas à chambouler tout parce qu'on a un verset qui est difficile. Moi, quand il y a des versets qui sont très difficiles, que je ne comprends pas, bon, ben pour le moment, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a forcément, obligatoirement, forcé une interprétation sur le sujet? Non. Non. Et vous savez, cette histoire de roue dans Ézéchiel, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Hein. Et pourtant, c'est écrit. Et je ne vais pas forcer. Ah, mais les roues, c'est peut-être un 4x4, j'en sais rien, peu importe. Et je ne vais pas chercher à forcer quelque chose parce que je ne le comprends pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas s'opposer à l'annonce de l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas pour les morts, mais pour les vivants. Et il faut qu'ils croient. Et s'ils ne croient pas, c'est ce que dans l'Évangile, il faut qu'ils croient pour être sauvés. Et ils ont besoin de ça. Lorsque nous lisons la parole, et c'est peut-être là l'erreur des Corinthiens, nous devons toujours prendre le temps d'observer à qui s'adresse et de qui on parle. Quand vous regardez les trois versets qui se suivent, il dit « S'il en était autrement, que ferait ?» Il n'a pas dit « Que ferons-nous lorsque nous baptisons les morts ?» Il dit « Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ?» Littéralement, Paul ne s'inclut pas dedans. Il ne s'inclut pas dedans. Il dit « Ceux qui... » Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, il dit quoi ?« Ceux qui sont sous la loi, ceux qui sont sans la loi, ceux qui courent dans le stade, ceux qui combattent. » Ce sont des exemples qu'il donne dans la vie courante côté des Corinthiens. Et pensez pas qu'il n'y a que les chrétiens qui se faisaient baptiser. Hein. Le baptême, c'est quelque chose d'assez général. Les ablutions d'eau, vous retrouvez ça dans beaucoup, beaucoup de pratiques. Parce que l'eau, tout le monde, c'est une représentation de l'eau, de quelque chose qui est une purification. Mais là, il parle de ceux qui se font baptiser pour les morts. Et ceux qui se font baptiser pour les morts, ils posent la question, pourquoi croyez-vous qu'ils font ça? Parce qu'eux aussi, ils espèrent en quoi? En une résurrection. Et vous pensez qu'il n'y a que les chrétiens qui ont dans l'espérance une résurrection? Vous croyez que c'est la seule doctrine chrétienne? Seuls les chrétiens ont une doctrine qui parle de résurrection? Dans d'autres doctrines, on parle de résurrection. Et tout le monde s'attend à une autre vie? Où? Au-delà. Vous pensez que les Grecs ne s'attendaient pas à une vie au-delà? Ils en parlent. Mais nous, nous serons toujours pensés que ce qui, c'est nous. Il dit ça, c'est ce qui, c'est eux, ils le pensent. Et pourquoi est-ce qu'ils le font si, dans la nature, tout le monde n'espère pas à quoi, après quoi? Une résurrection. Pourquoi pensez-vous que les gens font quand même attention? Il ne faut pas que je fasse quand même trop de mal dans ma vie, parce que sinon, je risque de ne pas aller au paradis. C'est juste qu'ils ont un paradis, ils ont leur notion, mais ils essaient quand même de vivre une vie qui est dans l'espérance d'une autre vie derrière. Mais c'est une fausse espérance. Et ce n'est pas parce qu'ils l'annoncent que c'est une chose qu'il faut pratiquer. Il y a ceux qui, et après au verset suivant, il ne va pas parler de ceux qui, il va dire « et nous ». Ceux qui, c'est leur pratique, ils se font baptiser pour les morts. Nous, notre pratique, lorsque nous croyons en la résurrection, c'est que nous affrontons à toute heure quoi? Le danger. Une espérance est vraie dans notre vie lorsque nous sommes capables de vivre des choses qui correspondent à cette espérance. Si vous croyez en la résurrection et que votre vie, la vraie vie, la vie éternelle, c'est celle qui est au ciel, vous considérez votre vie actuelle d'une différente manière. Mais si votre vie, la seule, c'est celle d'ici, vous la considérez aussi d'une autre manière. Et ici, Paul, il considère sa vie ici comme une vie temporaire ou éternelle, de passage ou la finalité. De passage. Alors, cette vie ici, elle est faite pour quoi? Affronter à toute heure le danger. Et c'est ce qu'a toujours fait Paul. Et c'est notre marche en tant que personne qui espère la résurrection, ne faisant aucun cas de notre vie ici-bas. Nous qui savons que la finalité de notre vie, c'est la résurrection, nous marcherons comme celui qui est ressuscité, qui n'a fait de sa vie aucun cas. Nous prendrons le même chemin de ne pas considérer comme important notre vie ici-bas, mais considérer la vie d'après. Il est les prémices des morts, on l'a vu. Il est celui que l'on doit suivre, il est celui que l'on doit imiter. On l'a vu dans tout le temps, c'est Jésus-Christ. Nous devrions donc considérer notre vie aujourd'hui comme Christ a considéré la sienne lorsqu'il était sur terre. Mais est-ce que c'est notre façon de penser? Est-ce que c'est notre espérance que d'être comme Christ? Ou notre espérance, c'est toujours de garder notre vie? Je repose les questions. Qu'espérons-nous trouver en Jésus-Christ? Qu'espérons-nous de cette vie chrétienne? Qu'espérons-nous de la vie avec Dieu? Ce n'est pas une question de situation. Alors, Paul, il dit « nous ». Nous quoi? Nous affrontons à toute heure le danger. Et si vous tenez à votre vie, est-ce que vous affrontez le danger? Vous allez plutôt faire quoi? Fuir. Faut que je trouve un endroit pour passer des bonnes vacances là, parce que là j'en peux plus. J'en peux plus de cette vie chrétienne, j'en peux plus de te voir, avoir ces gens autour de moi qui sont en train de m'attaquer, ces gens autour de moi qui sont en train de parler mal, j'en peux plus de cette vie sur cette terre, je veux fuir. Fuir. Mais il dit quoi? Non, nous, pourquoi vous fuyez? Notre retraite, elle est où? Elle est dans l'éternité. Elle n'est pas ici. Et notre retraite, elle est avec Dieu. Elle n'est pas dans un lieu sans danger. Nous, notre pratique dans la foi, en cette résurrection en Jésus-Christ, c'est d'être prêt à une vie. Ici, c'est à toute heure en danger, et dans la version que j'ai, c'est à toute heure en péril. Tout est périlleux. Acceptant de se perdre dans ce monde pour une victoire dans l'avenir, dans le royaume de Dieu. Et quand vous annoncez l'évangile, il y a des combats. Quand vous vivez l'évangile, il y aura encore plus de combats. Alors il y a ceux qui se font baptiser pour les morts, ce sont les autres. Ceux dont l'espérance les pousse à se faire baptiser pour les morts en espérant que ça les sauve. C'est leur manière. En faisant baptiser pour les morts, j'espère qu'ils seront sauvés. Et ensuite, il y a nous, dont l'espérance nous pousse à accepter toute heure le danger. C'est la norme. Pourquoi? Pour l'évangile. Et maintenant, parmi ceux qui acceptent d'être à toute heure en péril, il y a le verset suivant. Ce n'est plus nous, mais chaque jour, je. Il y a eux, il y a nous, et il y a je. Et il y a nous, c'est la considération normale. Je, il y a maintenant la vie, ma vie, mon engagement. Et c'est l'engagement de Paul. Il dit quoi? Chaque jour, j'essaye d'esquiver la mort. Chaque jour, je quoi? Je risque la mort. Et le terme que j'ai, chaque jour, je suis exposé à la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on peut prendre, s'il vous plaît, la version... nouvelle édition de Genèse 79. C'est le verset précédent. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Mais je préfère le terme exposé. Exposé, c'est vraiment... Vous avez vu une vitrine d'exposition. Hein. Chaque jour, la mort, elle arrive et là, vous êtes toujours là, devant. Vous n'êtes pas rentré dans le magasin, rangé au fond. Mais il accepte cela. Et il l'atteste, frère, par quoi? Par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voyons l'engagement personnel de Paul. Et ça nous pousse à nous poser la question, mais quel est mon engagement? Il y a nous, mais moi, quel est mon engagement? Son engagement, il était dans la régularité, premièrement. Tous les camps, c'était comme ça pour lui. Chaque jour. Et elle dit, ah non, ce jour-là, c'est off pour moi. Ce jour, j'ai décidé que, non, je ne vais pas servir aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Non, je ne vais pas accepter. Non, chaque jour, je suis exposé à la mort, il dit, je l'atteste. Et on voit l'intensité, il est exposé à la mort. Il n'a pas dit, il est exposé à des méchancetés. Il est exposé à des... Et parfois, nous, c'est juste des choses comme ça, on est exposé à des petits mots qui ne sont pas très sympathiques. On est exposé à des remarques. On est exposé à... Et puis nous sommes déjà en train de dire, ah non, je ne supporte pas. Mais son engagement, c'est jusqu'à la quoi? À la mort. Et nous nous disons, ah mais c'est Paul. Mais Paul, c'est un homme, c'est pas un surhomme. Et il marche de cette manière parce que son espérance, elle est solide. Il croit réellement que cette vie d'aujourd'hui, c'est une vie comment ? Temporaire. Mais nous, nous sommes là en train de penser que cette vie, elle est très, 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 très importante et que celle d'après, elle attendra un petit peu quand même. C'est pour ça que notre engagement n'est jamais chaque jour et encore moins jusqu'à la mort. C'est jusqu'à ce que je sois un peu fatigué. C'est un petit peu comme ça. Et son moteur, il est là. Sa joie, il est là. C'est de le partager avec les frères et sœurs. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. Il annonce cet évangile. C'est ça, la gloire qu'il a, c'est de voir ces personnes-là grandir dans l'évangile. Et c'est ça qui le plaît dans cette vie. Et c'est ce qui plaît aussi à son maître. C'est pour ça que son maître est mort, non ? Pour que nous soyons dans la quoi ? Dans la gloire. Pour que nous soyons sauvés. Et il a le même plaisir que son maître, la même vie que son maître, la même intensité. Et c'est une personne qui croit dans cette résurrection. Et il croit en Jésus-Christ, son qui ? Son Seigneur. C'est ce qu'il dit, chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste faire par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas de sa volonté, ce n'est pas de son idée, ce n'est pas de sa force, c'est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce qui nous pousse à agir, c'est ce qui devrait être la source de notre raison de vivre ici. L'investissement de Paul, tout le contraire de l'investissement d'une personne qui n'a pas d'espérance. Et c'est ce qu'enseigne le verset suivant. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas ? Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Si nous n'avons pas d'espérance en Christ, si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, notre investissement sera égal à cette foi. Le plus important, ce n'est pas la vie après la mort, mais c'est la vie avant la mort. Demain, nous mourrons, c'est maintenant ce qui est important. Le plus important, ce sera maintenant notre vie d'aujourd'hui, notre plaisir, notre bien-être sur cette terre. Et c'est normal si on ne croit pas qu'il y a mieux après, puisqu'il n'y a pas d'espérance. Mais ça, ce sont des vues humaines. Si les morts ne ressuscitent pas, mais quelle perte de temps d'essayer d'annoncer l'évangile. Je vous le dis. Parce que vous l'annoncez pourquoi alors ? Si c'est pour vivre sur cette terre, il l'a déjà dit, hein ? Si c'est seulement pour vivre sur cette terre que vous croyez en Christ, vous êtes quoi ? Le plus malheureux des hommes. Il l'a déjà dit. C'est triste dans ce cas-là. Et vous savez, je pense qu'il s'agit de l'épisode qui se trouve à Éphèse, quand il y a la foule qui veut absolument. Qui est énervée là, parce qu'ils sont en train de saboter leur business. Avec l'annonce de l'évangile. Et ils essaient, ils en veulent, et puis les frères ils disent à Paul, ne va pas là-bas. Mais ils devaient être comme des quoi ? Comme des bêtes, prêts à déchirer. Paul, il voulait aller encore. Hein. C'est les frères qui disent, non, on n'y va pas. Mais c'est un petit peu ça, c'est que ce n'est pas dans un avantage. Il n'y avait aucun avantage à aller voir ces Éphésiens, si ce n'est de prendre quoi ? Des baffes et des coups de pied, et il s'est fait lapider déjà dans d'autres villes. Et il n'y a aucun avantage dedans. Et si vous pensez chercher un avantage sur cette terre parce que c'est ça qui vous fait annoncer l'évangile, je suis désolé, l'avantage, il n'est pas ici. L'avantage est avec le Seigneur. L'avantage n'est pas dans notre confort ici-bas. Ça, ce sont des vues comment ? Humaines. Et on pourrait combattre dans des vues humaines. Et c'est un peu comme ça que faisaient les Grecs. Hein. Les Grecs combattaient dans des vues humaines. Quand ils combattaient et qu'ils arrivaient à vaincre une foule d'armées, ils étaient quoi après derrière ? Les Grecs, c'est quand même leur principe, ça. S'ils ont beaucoup de quoi ? De héros. La gloire des hommes, ah, il est trop fort. Et ils attendent ça, la gloire, la gloire, la gloire. Et c'était un peu le problème des Corinthiens. Moi, je sais ça. Moi, je suis de Paul. Moi, j'ai raison. Qui est-ce qui a raison ? Qui est-ce qui a réussi à faire ceci ? Qui est-ce qui est capable de parler plein de langues ? Qui est-ce qui sait faire des miracles ? Qui c'est qui sait faire des prophéties ? Et c'était leur problème. Ils ne se souciaient pas d'édifier, mais toujours, ils cherchaient leur avantage. Sommes-nous engagés à servir durant le temps ici-bas pour un avantage ou pour le Seigneur ? Qu'est-ce qui nous motive ? Les avantages ou l'espérance ? avec des vues humaines, nous ne nous engageons que dans ce qui nous fait plaisir. Mais avec la vue selon Dieu, nous nous engageons pour être agréable à Dieu. C'est très différent. Et Paul, il savait qu'il était déjà avantagé. Parfois, c'est le problème d'espérance, c'est qu'on ne sait pas qu'on est déjà avantagé. Vous savez, les personnes qui attaquent Paul, les personnes qui ne croient pas en la résurrection, le plus malheureux, ce n'est pas Paul, c'est eux. Et quand quelqu'un vient et vous agresse et qu'il renie Christ de la bouche, le plus malheureux, ce n'est pas vous, c'est eux. Mais si vous pensez que vous êtes le plus malheureux, c'est que notre espérance a un souci. Mais eux n'ont pas d'espérance. Eux ont besoin d'espérance. Et quitte à ce que nous prenions des coups, nous devons leur annoncer quoi ? Cette espérance. Nous sommes déjà avantagés. Nous avons déjà notre place au ciel. Nous avons déjà la résurrection qui est assurée derrière. Eux, non. Quand le Seigneur reviendra, où seront-ils ? Ceux qui n'ont pas de résurrection n'ont qu'une seule espérance après la vie. C'est quoi ? La mort. C'est tout. Alors si c'est dans cette optique, dans cette vue humaine, s'il n'y a que la mort qui nous attend derrière, mangeons et buvons. Car demain, nous mourrons. Voilà l'avenir. Nous mourrons. Profitons de la vie avant de mourir. Personne ne dit jamais ça. Hein. Profitons, on n'a qu'une seule vie. Hein. C'est une philosophie qui n'existe pas, ça. C'est la philosophie de tout le monde, sans espérance. Mais le problème, c'est quand nous utilisons ça dans nos églises, comme chez les Corinthiens. Ah, c'est bon, profite de la vie. Et c'est pour ça la débauche, profite de la vie. Demain, nous mourrons, quoi. Et même quand c'était la scène, au lieu de s'attendre, profite de la vie, mangeons et buvons. Dépêche-toi, comme si c'était plus important que les frères et sœurs. N'expose pas ta vie à la mort. Arrête de mettre ta vie en péril, occupe-toi de toi, les autres attendront. Pourquoi se prendre la tête avec ces Éphésiens ? Ils te veulent du mal, mais laisse tomber. Viens, mangeons et buvons. Demain, nous mourrons. Et le verset 33, il dit, il y aura ces appels-là. Et il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous le sortez du contexte, vous pouvez tout dire. Mais la mauvaise compagnie, c'est celui qui est en train de vous dire quoi ? Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et il dit quoi ? Laisse tomber cette vie aujourd'hui avec le Seigneur. Profite un peu, quoi. Profite un peu. Comme si demain, nous allions quoi ? Mourir. Ma question, c'est, est-ce que demain, vous allez mourir ou vous avez la vie éternelle ? Si vous avez la vie éternelle, c'est quand la fin, alors ? Vous avez tout le temps, dans l'éternité, de profiter, pas d'une vie qui est misérable ici-bas, une vie malheureuse, mais d'une vie, comment ? Pleine de la félicité, avec Dieu, tout le temps. Et déjà aujourd'hui, vous savez déjà les arts que nous avons avec l'esprit de vivre avec Dieu. Cette joie, ce bonheur, je ne vous raconte même pas, parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais c'est au-delà de tout ce que je peux vivre ici. Et le plus grand bonheur que j'ai ici ne sera jamais aussi grand que celui qui sera là-bas. Alors pourquoi faire de cette vie le plus important ? Pas d'investissement. Quand demain nous mourrons, vous ne vous investissez pas. Demain nous mourrons, tout ce que vous faites, c'est profiter, profiter, profiter. Quelqu'un ne va pas investir dans quelque chose s'il va mourir le lendemain. Et c'est notre problème dans l'engagement, nous oublions l'espérance. Christ a donné sa vie sur terre pour nous donner la vie au ciel. C'est bien ça. Christ a donné sa vie sur terre pour nous donner la vie au ciel. Et nous, nous suivons quel chemin ? Où donnons-nous notre vie ? Pour amener les autres avec nous au ciel. Mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies nous diront toujours, ou nous feront toujours oublier le principal, l'espérance. Qu'espérons-nous trouver en Jésus-Christ ? Qu'espérons-nous dans cette vie chrétienne ? Qu'espérons-nous de la vie avec Dieu ? Qu'espérez-vous de l'avenir avec Dieu ? Pour conclure, Si notre espérance n'est pas claire, si notre espérance est incertaine, nous n'attendrons de Jésus-Christ qu'une vie ici-bas, une vie chrétienne dans la mort et la fin. Une pauvre relation avec Dieu, puisque c'est cette relation-là nous satisfait. Notre satisfaction, c'est de se tenir en la présence de Dieu. Un avenir incertain, peut-être. Donc, il est normal que nous nous disions, « Bon, ben, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Dans cette philosophie, il est normal que l'Église de Corinthe continue de vivre à la corinthienne. Il est normal que chacun recherche à avoir la même place ici-bas, puisqu'il n'y a rien derrière. Il est normal que chacun recherche à avoir la gloire ici-bas, puisqu'il n'y a rien derrière. Il est normal que les membres de l'Église de Corinthe continuent à vivre dans la débauche, puisque ce corps-là, il n'y aura pas d'autre corps derrière. Il est normal que l'on cherche une réussite sociale, parce que la réussite spirituelle, elle n'est pas là. Il est normal de penser à soi d'abord, puisque il n'y a plus rien. Moi d'abord, c'est trop court le temps. On n'a qu'une vie, ne la gâchons pas. Mais selon qui le dit, il le vivra de deux différentes manières. On n'a qu'une vie ici-bas, ne la gâchons pas. Mais pour vous, ça veut dire quoi, ne la gâchons pas? C'est la question. Est-ce que c'est profiter ou est-ce que c'est obéir? Dans l'Église de Dieu, ce n'est pas normal que les mœurs soient les mêmes que celles du dehors. Si ceux du dehors n'ont pas d'espérance et dans l'Église n'a pas d'espérance, qui va annoncer l'espérance alors? Et le verset suivant, il nous le dit. Verset 34. Revenez à vous-même. Comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissant pas Dieu, ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Il s'adresse à une église. Et il dit littéralement dans cette église, il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. Et il dit, je le dis à votre honte, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est que vous laissez des gens sans la connaissance de Dieu, mais ils se trouvent où? Dans l'église. Il y en a qui ne croient même pas en la résurrection. Ça veut dire que peut-être que cette résurrection n'était pas très, 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 très enseignée. Ou pas très, 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 très prêchée. Elle n'était pas conservée. Et quand on enlève quelque chose des Écritures, il y a toujours une connaissance, il y a toujours une conséquence. Mais Paul, il connaît le temps. Il sait qu'il est court. Il sait que le Seigneur va revenir. Alors son appel, il est là. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Vous savez, au démarrage, quelle était notre foi. Revenez dans l'Évangile, revenez à vous-même. Ne soyons pas insensés. Il faut retenir les choses de manière convenable. Il y a ce qui est convenable. Ne péchez pas. Il fait tout, Paul, pour qu'il soit agréable à Dieu. Et nous avons, nous aussi, besoin de recevoir ces avertissements comme Paul nous le donne. De recevoir le message de Dieu, que chacun regarde comment il agit. Est-ce que j'agis de manière convenable? Est-ce que ma foi est convenable? Est-ce qu'elle est selon les termes que nous avons reçus? Et souvent, on prend les avertissements quand on dit « Ouais, mais moi j'aime bien ma vie, je comprends. » Non, vous savez, les avertissements sont une grâce pour nous. Les avertissements sont une grâce. Souvent, on prend mal les avertissements. Et quelqu'un te dit arrête. Vous savez, la Bible nous dit le sage est un maître repris. Pourquoi est-ce qu'il est un maître repris? Parce que si jamais il est repris, il sait qu'il risque de pouvoir éviter quelque chose qui s'appelle le péché. Et ici, il dit revenez à vous-même parce que votre idée là, de l'espérance, de la résurrection, ces philosophies que vous laissez croître, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas selon l'Évangile. Les Écritures ont été très claires sur ce sujet. Donc ne péchez pas. Et Paul, il aime ses Corinthiens, c'est lui qui a fondé cette église et il ne veut pas qu'ils se perdent. Mais parmi ceux qui se perdent, ou ceux qui sont perdus ici, il y en a qui propagent un évangile de Dieu modifié, selon leur philosophie, qui détournent les regards de la résurrection, ceux qui ne croient pas, Dieu est capable de nous faire revivre en Christ. Et ceux-là aussi, ils ne connaissent pas Dieu, et c'est une honte, parce qu'ils devraient connaître. Connaissons-nous l'espérance que nous avons en Dieu? Ne soyons pas couverts de honte. Vous savez, quand le Seigneur reviendra, il y a ceux qui partiront avec lui, mais il y a aussi ceux qui seront couverts de honte. Et la question, c'est où serons-nous, ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui sont dans la gloire, ceux qui seront couverts de honte ou ceux qui seront dans la victoire? Que l'espérance qui est en nous nous pousse à agir conformément à Christ, à imiter Christ, prêt à être à toute heure dans les dangers, dans le péril, prêt à être exposé selon l'appel que nous avons reçu de Dieu. Et ne mettons pas de limite à ce que Dieu nous demande de faire. Ne mettons pas de limite à notre compréhension, aux paroles de Dieu par rapport à notre compréhension. Mais au lieu de dire « mangeons et buvons, car demain nous mourrons », j'aimerais plutôt que nous disions « croyons et servons, car demain nous vivrons ». Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons d'abord te demander pardon, Seigneur, parce que moi, personnellement, parfois, Seigneur, dans ma vie, j'oublie. J'oublie la finalité et parfois trop attaché à cette vie. Mais Seigneur, tu nous le rappelles, cette vie, elle n'est pas faite pour nous. C'est la vie avec toi, une nouvelle vie, une vie sans péché. C'est la promesse que tu nous donnes, un corps sans péché. Et aujourd'hui, tu nous as justifiés. Merci déjà. Et tu nous sanctifies, tu nous éloignes du péché. Gloire à toi. Mais demain, je sais aussi que ton espérance, elle est vraie. Il n'y aura plus de péché. Et Seigneur, merci pour cette espérance, que cette vie aujourd'hui serve pour ton évangile. Non pas pour moi. Pour ton évangile. Que Seigneur, toutes les âmes qui nous rencontrent puissent voir cette assurance dans notre vie. Que lorsqu'ils demandent raison de notre espérance, on puisse leur répondre clairement, oui, je crois que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour mes péchés, et je crois que moi aussi, je serai ressuscité avec lui, j'ai ma place. Merci Seigneur, parce que tu nous délivres des péchés. Et si Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un vit encore dans ses péchés, qui croit? Car Seigneur, c'est ce que tu nous dis, de croire simplement. Merci pour cette simplicité, merci pour cet amour, merci pour ta patience aussi, Seigneur. Merci parce que nous sommes infidèles, mais toi tu es fidèle, tu ne peux te renier. Et Seigneur, je te remets cette église, qu'elle puisse contempler toujours ta fidélité. Qu'elle puisse, Seigneur, marcher de progrès en progrès, avançant toujours plus proche, Seigneur, de toi, dans ta connaissance. Merci déjà parce que nous pouvons annoncer cette parole. Et je te prie, Seigneur, pour les jours qui vont venir, chaque jour, que chacun puisse s'investir selon les Écritures, afin de t'être agréable en tout temps. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs. Je te remets ceux qui ne te connaissent pas aussi, Seigneur, qui puissent connaître ce nom, Seigneur, et connaître ton nom. Que lorsque tu reviendras, ils puissent partager ce salut aussi, Seigneur. Nous savons qu'après la mort, il sera trop tard. Mais Seigneur, maintenant, je te prie pour nos amis, nos familles, nos collègues, tous ceux que nous rencontrons, Seigneur, qu'ils puissent voir en nous des personnes qui ont cette assurance, Seigneur, différente, qu'ils ne comprendront pas, sauf si ils te connaissent, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, et béni chacun dans son témoignage. Je sanctifie cette prière. Amen.
Amen.
C'est sa place.